stagiaires, enseignantes, agentes d'entretien, secrétaires, infirmières, aides à domicile, assistantes maternelles, travailleuses sociales, administratives, sages-femmes, hôtesses. Nous sommes ingénieurs, techniciennes, ouvrières, employées ou cadres. Nous faisons le même travail que des hommes, mais avec un salaire inférieur.
Eh oui, éternel message des associations féministes à l'approche du 8 mars, la journée des femmes. Et si c'était la dernière fois ? On peut toujours rêver, mais depuis hier, c'est officiel, les entreprises de plus de 1000 salariés ont obligation de publier les écarts de rémunération hommes-femmes et leur évolution. Les résultats devront être transmis chaque année au ministère et aux salariés. En retour, les employeurs pourront être notés eu égard aux efforts qu'ils auront engagés et les disparités salariales injustifiées devront être comblées dans les 3 ans, faute de quoi les entreprises seront mises à l'amende. Amende qui pourrait aller jusqu'à 1% de leur masse salariale d'ici 2023. Toutes les entreprises de toute taille seront concernées. Voilà une bonne nouvelle que même le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a applaudi en soulignant qu'après 40 ans à chercher une solution, on l'avait peut-être enfin trouvée. Enfin, à condition, bien sûr, comme le font remarquer les syndicats, que l'inspection du travail ait les moyens de vérifier que les entreprises sont bien dans les clous. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de poser un droit pour qu'il soit appliqué, ou sinon l'égalité des salaires ne serait plus un problème en France depuis 1972. La France, qui en termes de droit, est d'ailleurs championne du monde de l'égalité homme-femme, avec 5 autres pays, Belgique, Danemark, Lituanie, Luxembourg et Suède. C'est un classement établi cette semaine par la Banque mondiale, suivant un certain nombre de critères relatifs aux conditions de travail et la vie de couple aux enfants. La France obtient la note de 100 sur 100, quand l'Allemagne a 92 et les États-Unis 84. Ce qui ne se vérifie pas évidemment forcément dans la réalité quotidienne. La preuve qu'un arsenal législatif et réglementaire n'est pas suffisant s'il n'est pas assorti d'une obligation de résultat, mais cette fois sera peut-être la bonne. Acceptons-en l'augure.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp.
Il aura connu, comme toujours, un énorme succès. Le Salon de l'Agriculture fermera ses portes demain soir à Paris. Dans l'éternelle incertitude d'un secteur en pleine mutation vers le bio, la sortie du glyphosate et peut-être, dans le cadre de la loi votée à l'automne, la loi dite Egalim, peut-être vers une plus juste rémunération des producteurs, c'est à voir. Et c'est ce dont vous allez débattre. Emmanuel Lechypre de BFM Business, Vincent Grimaud d'Alternative Économique. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
On n'oublie pas que vont se négocier également dans les semaines qui viennent les conditions de la nouvelle PAC, politique agricole commune, sans les Britanniques. Hein, cette PAC qu'Emmanuel Macron dit vouloir réinventer reste à savoir comment. Elle est à réinventer également la position des Européens face à l'omnipotente justice américaine qui vient jusque dans nos campagnes saigner nos entreprises en utilisant l'arme du droit. Eh oui, Alstom, Technic, la BNP, demain peut-être Airbus. C'est ce dont nous parlera notre invité, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Ali Laïdi, qui publie le résultat de ses 2 ans d'enquête sur l'extraterritorialité des lois américaines et ses conséquences économiques. On verra d'ailleurs aussi, par le reportage d'Hélène Philly chez Thalès, comment nos entreprises se protègent, en revanche, d'une autre menace tout aussi inquiétante, les cyberattaques. Et puis nous parlerons du télétravail avec Sandrine Foulon dans « Ma vie au boulot ». Comment convaincre son employeur qu'on peut faire aussi du bon travail en restant chez soi. On n'arrête pas l'écho, bienvenue.
23 février 2019.
Les agriculteurs sont plus que personne attachés à la protection de la planète.
Emmanuel Macron.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi anxieux pour le changement climatique, le réchauffement, qu'un agriculteur, parce que celui qui en vit les conséquences, qui tremble devant la sécheresse, qui vit les conséquences de l'inondation, c'est l'agriculteur.
Il a raison, le président Macron.
Yannick Jadot.
Il dit les paysans doivent être les premiers écologistes. Tout ça, c'est très bien, ça me va très bien. Le problème, ce sont les actes.
Député européen, Europe Écologie Les Verts.
Le président Macron parle de souveraineté alimentaire, c'est très bien, mais il soutient les accords de libre-échange qui tuent totalement notre souveraineté alimentaire. Franchement, devant l'urgence de paysans bio qui sont en train de fermer boutique parce qu'ils n'arrivent plus simplement à vivre, parce que l'État n'assume pas sa responsabilité, c'est totalement aberrant. Et puis, je parle pas du glyphosate.
Écoutez, monsieur Jadot est coutumier des déclarations intempestives.
Christiane Lambert.
À l'origine
l'origine, dans la PAC, il n'y avait rien pour l'environnement. Parce que dans les années 60, c'était un sujet pour personne.
Présidente de la FNSEA.
Aujourd'hui, c'est un sujet pour tout le monde et depuis les années 90, la politique agricole commune a intégré le sujet environnement. Il faudrait que M. Jadot regarde un peu plus près qu'est-ce qu'il y a. Il y a des soutiens pour différentes problématiques, pour l'accompagnement de l'agriculture biologique qui est en pleine expansion en France en ce moment.
Ce qui est vrai aujourd'hui,
Adrien Quatennens,
c'est qu'on a un modèle productiviste agricole qui est extrêmement dépendant de la chimie, qui empoisonne les agriculteurs, qui empoisonne les sols.
Député La France Insoumise.
L'agriculture bio, aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui se passent de ce type de produits. Ça existe. C'est bien la preuve qu'on a un système agricole à repenser et à repenser d'urgence.
On sait depuis des années,
Didier Guillaume,
qu'il faudra sortir de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Je pense qu'on a un peu traîné.
Ministre de l'Agriculture.
L'agriculture, les syndicats agricoles sont partis dans cette transition agroécologique. Moi, je n'ai aucun doute sur la dangerosité du glyphosate. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est autorisé dans le monde entier. Donc nous allons regarder, produit par produit, molécule par molécule.
Où va l'agriculture française alors que le salon de l'agriculture fermera ses portes demain soir après avoir connu, comme chaque année, un énorme succès public, alors que la nouvelle PAC doit être renégociée pour les années à venir. Coup de projecteur donc ce matin sur cette révolution, le mot n'est pas trop, pas trop fort, cette révolution dans laquelle se sont engagées la plupart des filières, fini l'agriculture dite raisonnée de ces dernières années. Les conversions aux cultures bio sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, plus de 6000 l'année dernière. Les objectifs sont ambitieux, 15% des surfaces dédiées au bio d'ici la fin du quinquennat, 50% de produits locaux ou bio dans les cantines scolaires, plus de glyphosate ou quasiment plus d'ici 3 ans. Le président de la République l'a dit en inaugurant ce salon, il faut réinventer la PAC en lui donnant une forte dimension environnementale. Alors, est-ce un vœu pieux? En a-t-on vraiment pris le chemin? Nous, Français, Emmanuel Le Chypre, BFM Business, Vincent Grimaud d'Alternative Économique, qui commence?
Je peux commencer. Oui, on va commencer avec des bonnes nouvelles. C'est samedi matin, tout le monde est de bonne humeur. Alors, d'abord, oui, l'agriculture française est en train de changer. Elle change. Ce n'est plus seulement un petit truc de marge ou un rêve de bobo. Le bio est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Vous l'avez dit, on approche de 10% de producteurs bio dans le total des agriculteurs. Donc, ça devient sérieux. Les fermes bio, en plus, ont un contenu en emploi supérieur de 59% au secteur conventionnel. Donc, c'est beaucoup d'emplois. Hein. Dans un pays où on a un problème de chômage, c'est quand même pas négligeable. Certes, la consommation stagne un petit peu en 2018, mais on importe toujours 31% de notre agriculture bio, de nos produits bio par contre, ce qui est quand même dommage. Donc là, il y a des marges de manœuvre assez élevées. Il n'y a pas que la bio, il y a aussi les appellations d'origine protégée qui sont en pleine expansion, notamment sur les fromages. Par exemple, sur les fromages, donc c'est 14% du volume de fromage qui est en AOP et 20% de la valeur, donc on est sur un cinquième de la valeur. Les circuits courts eux aussi se développent, on a 12 à 13% de la production agricole qui est maintenant vendue en circuit court, dont un exploitant sur 5 qui s'y est mis. C'est des exploitations plus jeunes, plus riches en emplois, plus petites. Donc là, on a vraiment un modèle qui est en train d'apparaître.
Tout va pour le mieux dans le meilleur, dans la meilleure des agriculture française.
Non, tout va pas pour le mieux, mais ça va mieux là-dessus, et surtout, on peut aller plus loin. On est entre 10 et 20% aujourd'hui, on se dit, est-ce que finalement le bio a atteint son plafond, il y aura plus de consommateurs pour aller plus loin, est-ce que aussi on sera pas limité techniquement, parce que la force de l'agriculture intensive, ça a quand même été ses gains de productivité et sa maîtrise technique des productions. Eh bien, l'IDRI nous dit, donc c'est un institut de recherche, nous dit, dès 2050, on peut avoir une agriculture qui soit 100% sans pesticides. Donc, c'est pas non plus un rêve d'écolo. Et puis, il faut rappeler quand même pourquoi on en est là.
Sans pesticides, c'est pas forcément du bio. C'est pas forcément non. 100% bio.
Oui, vous avez tout à fait. Mais en tout cas, on peut imaginer se passer de pesticides dès 2050. Et même bien avant, progressivement. Et il faut aussi rappeler, et ça on le fait peut-être pas assez pour, mais pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, c'est parce que le modèle intensif est en crise. Il est en crise économique. Pourquoi? Parce que il est devenu tellement performant grâce aux subventions européennes qu'en fait il produit du surplus qui n'arrive pas à être vendu. C'est pour ça qu'on a mis en place des quotas laitiers, bon, avant de les abandonner en 2015, mais pendant longtemps on a dû limiter la production de lait parce qu'on en produisait trop. Il est en crise sur le plan environnemental, évidemment. On s'était promis de baisser les pesticides de 50% entre 2008 et 2018. Résultats, ils ne font qu'augmenter. Les derniers chiffres, c'est 2016. On a encore augmenté la consommation de pesticides. Et même les champions du monde de l'intensif, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est la superficie, c'est 7 départements français. Et c'est le deuxième exportateur de produits mondial. Donc, ils ont vraiment, eux, poussé l'intensif au max. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils reviennent dessus parce que scandale sanitaire et pollution.
Bon, donc un constat globalement optimiste, c'est le vôtre, Emmanuel?
Ce qui est sûr, c'est que là, on est confronté en matière agricole et alimentaire à une double révolution à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande, comme on n'en a pas connu depuis l'après-guerre. Avec, c'est vrai, un modèle français qui, lui, souffre de handicaps quand même considérables. L'environnement international, on l'a évoqué avec Vincent sur ce qui s'est passé aux Pays-Bas, par exemple, mais l'environnement international a changé à une vitesse spectaculaire. Ce qui fait que nos exploitations, par exemple, elles ont un problème de taille. Parce que le phénomène majeur des 20 dernières années, c'est quand même l'industrialisation de l'agriculture. Si vous prenez, par exemple, sur les élevages de porcs, c'est assez spectaculaire. Prenez le Danemark, par exemple, depuis 2003, donc depuis 15 ans, le nombre d'élevages a été divisé par 4, mais la taille de ces élevages a été multipliée par 4. En France, on n'a pas connu ça. On a parlé des Pays-Bas, on a parlé l'Irlande, par exemple, après une crise laitière considérable, est devenue un des plus gros exportateurs de lait. Les Allemands sont devenus le principal producteur de fromage en Europe.
Parce que les exploitations
n'ont pas su grandir. Parce que nos agriculteurs, alors pour des raisons structurelles, pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques, par exemple, qui sont liées au fait qu'il y a un coût du travail qui était trop élevé en France par rapport à ce qu'il est ailleurs, par rapport à des raisons réglementaires qui font que on supporte en France plus de réglementation.
Trop grossir, Emmanuel, ça nous amène à l'exploitation industrielle.
Justement, figurez-vous que la logique aujourd'hui, parce que ce qu'on nous disait il y a 10 ans, c'était qu'en gros, pour l'agriculture française, il y avait que deux solutions possibles pour survivre. C'était la piste de l'intensivité maximale, c'est-à-dire qu'en gros, il allait falloir être hyper productif, produire des quantités extraordinaires à un prix ultra bas. Et puis, l'autre choix, c'était le choix de la niche, du produit de qualité, du produit très haut de gamme, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus ça. La réalité aujourd'hui, c'est que vous avez à la fois une révolution technologique sans précédent, c'est-à-dire qu'avec des technologies qu'on peut qualifier d'aller vers le bio. Alors, j'aime pas cette qualification de bio parce qu'on voit que c'est pas du tout la solution. Mais quand vous regardez aujourd'hui toutes les technologies, prenez des technologies autour de la permaculture, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui met en harmonie, finalement, l'utilisation des ressources naturelles. Vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, avec les technologies modernes, les rendements sont très supérieurs à ce qu'on pouvait penser et sont parfois aussi bons que les rendements chimiques. Donc, il y a des bouleversements technologiques.
Souvent meilleurs. Les agriculteurs bio, souvent, s'en sortent mieux.
Absolument. Et vous avez aussi une révolution de la demande. Et c'est de là que tout partira. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un consommateur qui veut du circuit court, on l'a dit, qui veut de la transparence. Et il y a une opportunité phénoménale pour les producteurs de faire de la valeur et donc de la marge sur ce sur quoi ils sont pas doués jusqu'à maintenant, c'est raconter des histoires, donner du sens. Parce que le consommateur aujourd'hui, il veut du sens. Il veut que son produit, il s'inscrive dans une histoire. Et ça, les agriculteurs n'ont pas été bons jusqu'à maintenant pour raconter des histoires.
Et puis on a entendu Yannick Jadot, les conversions au bio sont extrêmement difficiles. Il faut 2-3 ans avant de s'en sortir.
Mais
les producteurs doivent être accompagnés. Est-ce qu'on le fait bien?
Abandonner cette idée. L'idée, parce que là vous êtes victime du syndrome français, du petit bio, le petit producteur local, le petit voisins, etc., et ces quelques hectares. Non, la réalité, c'est qu'on peut aujourd'hui, et c'est le grand défi de la technologie moderne, on peut aujourd'hui produire en grande quantité des produits de qualité. En tout cas, c'est ce qu'on va pouvoir faire.
Vincent Grimaud.
Oui, là, je rejoins complètement Emmanuel. Raconter des histoires, c'est ce qu'a su faire, par exemple, la filière du comté.
Par exemple.
Le comté, ils ont tout compris. Ils se sont mis tous autour de la table et ils ont dit, on va décider ensemble de ce qu'on fait. Quand je dis tous, c'est les 2500 producteurs, les 250 transformateurs, essentiellement des fruitières coopératives, et puis les 15 affineurs qui sont chargés de la commercialisation. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent, ils se mettent autour de la table, ils fixent la quantité qu'ils vont produire, ils fixent le prix auquel ils vont le produire, ils mettent un cahier des charges très exigeant en termes de qualité, et ils décident aussi, et ça c'est très important, comment ils vont se partager le gâteau. Et ils discutent jusqu'à tomber d'accord chaque année. Résultat des courses, ils vendent le produit très cher. C'est le fromage qui se vend le mieux en France, c'est l'AOP la plus vendue de France, et ils rémunèrent le producteur 150 euros de plus tous les 1000 litres.
Mais là, on n'est plus dans la problématique du bio.
Non, on n'est plus sur le bio, mais on est sur la qualité. Pourquoi? Parce que le cahier des charges, il dit, vous n'avez pas le droit de mettre plus de tant vaches à l'hectare. Alors, je sais, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, il y a des choses qui se rapprochent du bio sans l'être directement, puisque quand vous faites c'est moins intensif, et vous donnez plus de place aux bêtes, vous avez sur les sols un effet qui est un peu le même. Et donc,
c'est la problématique de la filière aussi.
Oui, mais
c'est-à-dire qu'il y a le poids par rapport à, par exemple, la filière comté, c'est une des filières qui arrive à imposer ses hausses de prix à la grande distribution. Or, il faut rappeler qu'en France, vous êtes dans le pays dans lequel l'agriculteur y tire le moins de revenus par rapport aux produits finis. Par exemple, sur 100 euros dépensés pour l'alimentation, il y en a que 8 qui reviennent à l'agriculteur français aujourd'hui. En partie parce que vous avez cette situation assez unique dans la grande distribution, c'est que dans tous les grands pays autour de nous, vous avez une ou deux grandes enseignes de distribution. En France, il y en a 5 qui sont une concurrence importante.
4 centrales d'achat.
Avec voilà des centrales d'achat très concentrées. Et si vous n'avez pas de pouvoir de négociation, aujourd'hui, vous vous en sortez pas.
Justement, est-ce que la loi Egalim est de nature à changer les choses? Vous savez, cette loi qui prévoit une juste rémunération des producteurs, notamment par la hausse du seuil de revente à perte.
Bah déjà, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance qu'il y a eu des abus du côté des distributeurs. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Cela dit, tous les syndicats agricoles ont noté que ça restait quand même assez peu contraignant, hormis cette règle de 10% du seuil de revente à perte. Donc je ne suis pas sûr que la solution soit seulement là.
Il y a du mieux
là,
sur le lait ces dernières semaines.
Oui, puis surtout, ce qui est quand même intéressant...
Sur le reste, c'est pas très convaincant pour l'instant, mais...
Ouais. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que disait Emmanuel, ce qui est intéressant quand même avec ces filières qui cherchent à recréer de la valeur, c'est qu'elles font l'exact opposé de ce qu'on pourrait attendre d'une entreprise classique. La théorie d'une entreprise classique, c'est faites des gains de productivité pour baisser vos prix et donc pour pouvoir vendre plus. Et là, en fait, ils ont fait l'exact inverse et je vais vous raconter juste l'histoire du Cantal qui est passionnante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Cantal? Le principal industriel du Cantal avait fait des gains de productivité majeurs puisque normalement, pour produire du Cantal, il faut à peu près 2 jours. Là, ils avaient réussi à tomber à une grosse demi-journée. Donc, vous faites 1 jour et demi d'économie de productivité. Et en fait, le cahier des charges de 2007 a dit, vous revenez sur ce gain de productivité, on revient en arrière, vous repassez à 2 jours parce qu'il faut mettre tout le monde sur le pied d'égalité. Et parce que sur le goût du fromage, qualité, il n'est pas bon. Sûr. Et parce que qu'est-ce qu'ils constataient qu'en fait, ils avaient baissé les prix, ils vendaient plus, mais en fait, ils gagnaient moins parce que finalement, c'était pas rentable et le volume,
la qualité,
finalement, a fini par baisser.
Comté et Cantal, donc pour Vincent Grimaud.
C'est important.
Comment demander aux distributeurs de baisser leurs marges, Emmanuel Lechypre? Est-ce que c'est pas un vœu pieux?
Si, en grande partie, parce que l'esprit de cette loi, c'était de dire on va imposer des marges finalement plus forte sur des produits de très grande consommation, sur des produits emblématiques de l'industrie agroalimentaire. C'était cette idée que les marges ne pouvaient pas être inférieures à 10% sur des produits comme, alors on va les citer, le Nutella, les céréales, etc. Et le rêve, c'était un peu de dire, bah, puisque la grande distribution va faire plus de marge sur ces produits-là, elle va pouvoir en faire moins sur les produits qu'elle achète directement aux agriculteurs. La réalité, c'est que tout dépend de votre pouvoir de négociation, hein, et que il faut être un peu angélique pour croire que la grande distribution et l'industrie agroalimentaire va rétrocéder comme ça des marges aux petits agriculteurs. Donc la réalité, c'est que dans cette loi, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. D'abord, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte. Donc c'est vraiment le bon vouloir des distributeurs. Et puis il y a des notions qui ont été introduites dans cette loi, par exemple la notion de coût de production agricole, puisque l'idée c'était de partir des coûts de production des agriculteurs pour appliquer après des marges et qui irait jusqu'au prix final. Mais comment vous calculez, par exemple, un prix moyen de production en fonction des régions? C'est pas le même, etc. Donc il y a beaucoup de petits loups dans cette loi. Le diable est dans les détails.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Et pour le moment, la grande distribution, elle est pas extrêmement contente. Mais encore une fois, je vous dis, le pouvoir du changement, il viendra du consommateur. Parce qu'il faut arrêter de croire que finalement, c'est l'offre qui va tout faire. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de changer de comportement, d'être plus vigilant. Aujourd'hui, le français, il y a 70% des français qui aujourd'hui sont prêts à payer 10 à 15% plus cher leur alimentation si elle est de meilleure qualité. Bah, il faut mettre les gens en face de leur responsabilité.
D'où la croissance des rayons bio, effectivement.
Et songez souvent que, pour arriver à des prix qui rémunèrent de façon décente un agriculteur qui produit du lait ou qui produit de la viande, etc., c'est souvent quelques centimes sur un article au rayon des grandes surfaces. C'est quelques... j'ose même pas... C'est peut-être 30 francs... 30 euros... Pas 30 francs. Qu'est-ce qu'il prend?
Emmanuel Lechypre.
C'est peut-être 30 ou 50 euros par an. voyez, d'efforts supplémentaires pour le consommateur, mais pour avoir un produit de meilleure qualité.
Alors Vincent Grimaud, à part le consommateur, que peut-on attendre des pouvoirs publics et de cette PAC réinventée qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron, par exemple?
Ouais. Alors avant la PAC, il y a la France et notamment l'État qui doit en fait payer les services environnementaux que rend l'agriculture durable. L'agriculture durable, c'est des économies directes. Si vous polluez moins votre eau, ça coûte moins cher de la dépolluer. Donc ça, c'est des économies directes. Donc il faut le financer. Donc il faut encourager l'agriculture durable. Et c'est aussi tout un tas d'externalités positives. C'est la biodiversité préservée, les sols moins pollués. Et ça, ça n'est pas récompensé par le marché à aucun moment. À part si le consommateur dit, moi, je suis attaché à ça et donc je vais le financer. C'est ce qui se passe en partie. Mais sinon, il y a personne pour venir rémunérer ces services rendus à la planète. Donc il faut que l'État vienne et il faut accompagner la période délicate de transition parce que l'agriculture bio quand même sur certains produits, par exemple les céréales, vous allez diviser vos rendements par deux dans les premières années. Donc forcément vous avez un manque à gagner terrible et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Et là le gouvernement a retiré son soutien au maintien à la bio, donc les aides au maintien à la bio qui étaient versées pendant plusieurs années en disant écoutez, une fois que vous avez fait votre conversion, c'est bon.
Ah, c'est logique puisque ça marche.
Bah, c'est logique parce que ça marche, sauf que ça prend quelques années pour que ça marche. C'est pas parce qu'au début, il y a des consommateurs qui arrivent, mais il faut du temps pour structurer ces marchés, etc. Surtout, il y a un gros problème, et c'était évoqué par Yannick Jadot, je crois, des aides à la conversion, où là, il y a un bug énorme, et il y a des agriculteurs bio qui attendent entre 40 et 80 000 euros par exploitation.
Ah, très rapidement, Emmanuel Le Chypre, une solution à part le consommateur.
Après, c'est vrai qu'il y a tout un environnement mondial qui est important. Il y a cette nouvelle PAC. Le problème, c'est que effectivement, la PAC, elle a pris un virage environnemental qui est assez clair. On n'est plus sur des aides qui sont basées sur les quantités promises. Oui.
La Cour des comptes européenne a dit qu'il y avait seulement 5% des.
Et la difficulté, c'est que là, on a des élections européennes qui arrivent. On va avoir une nouvelle commission. Et que bah finalement les travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant risquent d'être en grande partie remis en question. Mais il y a 60%. Rappelons juste qu'il y a 60% des exploitations françaises qui sont vraiment extrêmement dépendantes de la PAC. Donc pour nous c'est vraiment un enjeu majeur.
Tout dépendra maintenant évidemment du résultat des élections européennes. Emmanuel Le Chypre de BFM Business qui parle encore en franc et Vincent Grimaud d'Alternative Économique
qui aime
le compter. Merci à vous.
Buon pomeriggio dalla redazione dei tecnici di RaiNews 24.
Voilà, il a fait très chaud cette semaine en France où les pics de pollution ont été atteints à Paris, Lille, Lyon. Que dire de la situation en Italie, dans la partie septentrionale du pays, l'Émilie-Romagne ou la Lombardie? En ce début mars, la ville de Milan, par exemple, a déjà dépassé le plafond annuel des 35 jours de pollution de l'air fixé par l'Union européenne. Bonjour Marie Duhamel.
Bonjour.
Correspondante de France Inter en Italie. Alors la plaine du Pô suffoque.
Absolument, à Milan ou Bologne, le printemps a pris de l'avance, mais les Italiens de la plaine du Pô n'attendent qu'une seule chose. La pluie, elle est annoncée pour la semaine prochaine pour que soient dispersées les particules fines qui s'accumulent dans leur ciel. Nous ne sommes pas à Pékin ou New Delhi, bien sûr, les hôpitaux ne sont pas saturés, les enfants vont à l'école. Il n'en reste pas moins que le taux des particules flottant dans l'air dépasse le seuil maximal fixé par Bruxelles. C'est dû à la situation géographique de la plaine du Pô enserrée dans des montagnes, l'air y stagne. Mais c'est également dû à l'homme, 45% des polluants viennent du chauffage domestique. 25% du trafic routier et le reste des émissions industrielles et agricoles dans cette région d'élevage intensif. Mais depuis 2 ans, les autorités locales ont pris le problème à bras le corps.
Alors justement, qu'ont-elles décidé de faire, ces autorités locales? Quelles mesures ont été mises en place?
Eh bien, les pics de pollution ayant lieu surtout à l'automne et en hiver, les mesures les plus drastiques s'étendent en général du 1er octobre jusqu'à fin mars. Elles sont d'autant plus strictes que les jours de pollution s'additionnent, comme c'est le cas en ce moment. Il est actuellement obligatoire de limiter son chauffage à la maison à une température de 19 degrés, avec interdiction de faire des feux de cheminée. Concernant la circulation à Milan, le centre-ville devenu payant est maintenant interdit en semaine aux véhicules les plus polluants. Idem dans 30 communes d'Émilie-Romagne, à Modène par exemple, les diesels d'Euro 1 à 4 sont bannis, comme les plus vieux modèles à essence, avec quelques exceptions, notamment pour les personnes malades. On aide à prendre le bus. Un bonus financier est également proposé pour encourager les acheteurs de véhicules hybrides. Ces mesures ont permis de faire baisser la concentration moyenne en particules, mais ce n'est pas assez. Et c'est sur l'agriculture et l'élevage intensif qu'il faudrait agir. La loi interdit l'épandage de purins plein d'ammoniac en hiver, mais les contrôles sont rares. Les ONG estiment aussi qu'il faudrait diminuer le nombre de bêtes dans les cheptels, vous en parliez, ce que ne favorise pas les politiques actuelles.
Marie Duhamel, correspondante de France Inter en Italie. Merci. Dans un instant, nous parlerons avec notre invité de l'arme de guerre économique qui est devenu le droit pour les Américains. Comment, par l'extraterritorialité de leur législation, ils déstabilisent leurs concurrents européens. Mais il y a un autre danger qui menace les entreprises aujourd'hui de plus en plus souvent et de façon de plus en plus massive. Je veux parler des cyberattaques. Au mois de janvier dernier, Airbus et Altran notamment en ont fait les frais. Alors pour On n'arrête pas l'écho, Hélène Filly a pu pénétrer dans le centre de supervision de Thales, l'un des plus grands acteurs de la cybersécurité en France.
Toi, Constance, toi, ça marche, toi, mais par contre, vous, ça n'a pas marché.
Ah oui.
Passez votre petit badge devant, là, s'il vous plaît. Allez-y.
Nous sommes à Elancourt, dans les Yvelines, au centre opérationnel de sécurité de Thales, un bâtiment ultra protégé où l'on ne pénètre d'ailleurs qu'accompagné.
Par contre, vous, on va faire la même manip que là-bas. Allez-y, passez. Allez-y, entrez. Marc Lecoq, je suis le responsable du SOC. Et là, vous êtes exactement au milieu, en fait, du Security Operations Center de Thales.
On est dans le sein des seins de la cybersécurité de Thales.
Pour être précis, vous êtes exactement à l'endroit où on détecte 24 heures sur 24, 365 jours par an, l'ensemble de tout événement potentiellement malicieux pour les systèmes d'information de nos clients.
Et on est entouré d'écrans de contrôle.
Alors ici, vous avez un mur d'image devant vous qui vous permet de détecter toute anomalie sur nos propres systèmes et sur tout ce qui se passe pour nos clients.
La carte du monde, là, en dessous.
La carte du monde, c'est une de nos sources d'information pour faire nos analyses après détection d'une anomalie.
Et là, aux États-Unis, en ce moment, il se passe quelque chose là.
Voilà, c'est l'activité en temps réel de ce qui se passe avec une qualification par cette source d'information.
Une qualification, ça veut dire si c'est rouge vif, c'est dangereux, si c'est orange, ça va mieux.
Dangereux, et ainsi de suite, voilà.
Vous avez un œil sur les réseaux de combien de clients ici ?
On va dire qu'on a une quarantaine de clients qu'on supervise.
Et quels sont les secteurs, s'il y en a, les plus sensibles ?
Tous les secteurs sont sensibles, en fait. Ce qu'on protège quelque part, ou on aide le client à protéger, c'est sa valeur ajoutée, c'est son métier, c'est ses systèmes industriels, pour certains industriels. Mais globalement, on travaille sur tout type de secteur, l'énergie, le secteur du transport, les services publics, les institutions aussi.
Qu'est-ce que vous voyez de l'évolution des attaques ?
Aujourd'hui, je dirais qu'on a de plus en plus de phénomènes d'attaques. C'est certainement plus structuré. Maintenant aussi, aujourd'hui, on voit de plus en plus des attaques par secteur d'activité. Donc des attaques qui sont plus orientées énergie, d'autres qui sont plus orientées services publics ou banques.
Voilà, la France doit être sur ses gardes car tout est prêt pour un cyber Pearl Harbor, explique Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI, l'Agence Nationale des Systèmes d'Information, le gendarme de la sécurité informatique. Des attaques massives pourraient toucher des secteurs particulièrement critiques comme l'énergie, les transports, les télécoms. Alors quel est précisément l'état de cette menace ? Les entreprises sont-elles vraiment conscientes du risque et comment se protègent-elles ? C'est le reportage d'Hélène Filly. Retour donc chez Thales.
Ivan Fontarinski, donc je dirige l'activité d'analyse technique de la menace. C'est un service donc qui a pour but de se renseigner sur qui est en train d'attaquer qui et comment et par quels moyens. C'est une clé USB qui coûte pas très très cher puisqu'elle coûte 40 euros. Quand on les branche, comme je suis en train de faire la démo, l'ordinateur va automatiquement exécuter une suite de code. Il va faire semblant que c'est un clavier et puis on va prendre le contrôle de l'ordinateur.
Je viens de prendre le contrôle de votre ordinateur égal à...
Là, c'est juste, j'ai fait une démo pour qu'il y ait un son, mais en fait, on pourrait très bien demander à la clé USB de se lancer des commandes pour prendre tous les mails, les envoyer à notre adresse email. Ces outils-là sont facilement accessibles, n'importe qui peut les récupérer.
Ouais, c'est ça. C'est que là, en deux clics sur Internet et un passage de commande, vous avez récupéré...
Et voilà, en 4 jours. Livré à mon domicile, 4 jours, j'ai de quoi faire une attaque chez quelqu'un.
Des attaquants de plus en plus ingénieux, de plus en plus nombreux. C'est bien ce que redoute le gendarme de la sécurité informatique, Guillaume Poupard, quand il évoque le risque d'un cyber Pearl Harbor, une crainte partagée par la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr.
Allez-y. Bonjour, Jérôme Notin, directeur général du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Le Pearl Harbor, c'est quelqu'un ou une attaque a touché 10% des entreprises françaises. Dans ce cas-là, il y a un vrai problème de sécurité nationale.
Et on a vraiment des raisons de le craindre ?
Alors, vu l'état de maturité de nombre de PME françaises, effectivement, on a de fortes raisons de craindre que ça puisse exister, oui. De par le fait que les réseaux soient ouverts aujourd'hui, largement interconnectés et pas forcément très bien protégés, on peut imaginer qu'un seul code malveillant, comme c'était le cas en 2017 avec WannaCry par exemple, et puis un petit peu différemment avec NotPetya, mais WannaCry par exemple a touché énormément de systèmes hospitaliers britanniques parce qu'ils avaient tous le même système d'information qui n'était pas à jour parce que c'était un OS, un système d'exploitation qui n'était plus maintenu. Donc oui, on peut imaginer qu'un seul code puisse paralyser une partie très 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 importante de notre économie. Il y a évidemment des secteurs qui sont privilégiés pour des attaquants, en particulier des secteurs qui détiennent de la propriété intellectuelle, des brevets, ce genre de choses, qu'ils vont essayer de voler. Mais quand il s'agit de détruire, on va s'attaquer à absolument tout le monde.
Comment on se protège ?
Alors quand on est une PME, on a deux manières assez simples de se protéger. La première, c'est qu'on éduque ses collaborateurs aux règles d'hygiène numérique. Ça, c'est notre dispositif, par exemple, cybermalveillance.gouv.fr a publié un kit de sensibilisation sous licence ouverte, donc évidemment totalement gratuit, à vocation vraiment des collaborateurs dans ses usages personnels. Donc c'est la première des choses. Et puis la deuxième, on met des outils techniques. Alors l'outil technique ne va pas protéger de tout, bien évidemment, mais va bloquer une majorité d'attaques. Donc là, on parle de pare-feu, on parle d'antivirus, de solutions anti-spam, par exemple, sur la messagerie. Nous, à notre petit niveau, avec nos 1500 prestataires de proximité, on a une vraie capacité de mobilisation. Imaginons un code malveillant qui soit diffusé, et puis il y a un remède, parce qu'il y a des chercheurs en sécurité, publics, privés, qui sont extrêmement efficaces en France, qui peuvent nous trouver ce remède. Eh bien nous, on est en capacité, en quelques minutes, de diffuser ce remède aux prestataires qui vont aller directement chez les victimes, l'appliquer et faire que le système refonctionne très rapidement.
Nous sommes au nord de Paris, nous allons à présent pousser la porte d'une jeune start-up, Yogosha. Avec cette start-up, on oublie les clichés sur les pirates informatiques, on va rencontrer des hackers éthiques, payés pour débusquer les failles dans les entreprises.
Je m'appelle Gwendal et je suis Bug Bounty Hunter depuis 2016.
Vous êtes une sorte de hacker éthique ?
Exactement, c'est tout à fait ça, les hackers éthiques, les white hats, qui aident les sociétés à améliorer leur sécurité informatique. Je cherche des failles de sécurité et je suis rémunéré en fonction de la sévérité de ces failles. Donc il y a une chasse à la prime et la première qui déclarera la faille touchera la prime. Voilà, donc là en fait je suis connecté à mon compte Yogosha. Donc j'ai la liste des entreprises qui ont créé un programme et qui m'autorisent finalement à les pirater. Voilà, je vais en choisir une. Donc là, l'entreprise a défini sa politique de prime.
Alors ça veut dire quoi ?
Les récompenses sont fixées en fonction de la sévérité des failles. Donc là, on voit que l'entreprise a fixé pour des failles de type low 100 euros, de type medium 300 euros, high et critical 700 et 2000 euros.
Donc de la plus petite faille découverte à 100 euros à la plus critique.
Tout à fait.
Vous en trouvez beaucoup ?
Des failles ? Tous les jours.
N'importe quelle entreprise a une ou plusieurs failles ?
Toutes les entreprises. Aujourd'hui, la sécurité 100%, ça n'existe pas. Et effectivement, dans mes débuts, je pensais que ça allait être très compliqué de trouver des failles. Mais en fait, avec l'expérience, on remarque que toutes les entreprises sont vulnérables. Ouais.
Vous avez vu comment on attaque la NASA ?
Non.
Sur la plateforme, il y a beaucoup de personnes comme Gwen qui travaillent de manière indépendante. Et en fait, nous, une grande partie de notre activité, c'est d'aller chercher ces personnes-là et de les ramener sur la plateforme pour justement aider les clients à trouver des choses qu'ils n'auraient pas vues par ailleurs.
Vous êtes Yasser Kazar, donc le fondateur de Yogosha.
Exactement. Les clients sont sensibles au sujet. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de clients ont compris que la sécurité était un enjeu stratégique. On change de monde. Il y a encore quelques années, la sécurité était vécue comme un centre de coût, comme l'équipe qui bloquait toutes les initiatives. Aujourd'hui, c'est un investissement, c'est un avantage concurrentiel. Et je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en train de comprendre ou qui ont compris ça. Et qui, du coup, dans un monde totalement digitalisé, ont compris que la confiance dans le business, dans les organisations, dans les relations, va passer en partie par la sécurité.
La puissance publique a parfois son rôle à jouer. Dans le secteur des télécoms, particulièrement critique, l'équipementier Huawei concentre les soupçons accusés d'espionnage par les États-Unis. Y a-t-il un risque à installer du matériel chinois sur les cœurs de réseau, sur les antennes ? Dans le doute, la majorité veut renforcer les autorisations réclamées à ces équipementiers. Nous avons rencontré Éric Botorel, député LREM, l'auteur de la proposition de loi.
La question, c'est de savoir combien de portes d'entrée on va laisser ouvertes pour leur permettre de continuer à jouer. Et le rôle de la puissance publique, c'est pas de fermer une porte à un acteur parce qu'il s'appelle Huawei, mais c'est de s'assurer que toutes celles et ceux qui participent des infrastructures, qui offrent des services et qui font que notre société peut-être sera meilleure demain, eh bien, soient des acteurs qui jouent le bon jeu et pas un double jeu.
Est-ce qu'il faut avoir peur de Huawei ?
Est-ce qu'il faut avoir peur de Huawei ? C'est une question fermée et qui appellerait une réponse ouverte. En vrai, il faut avoir peur. Je crois que c'est le patron de Kaspersky, qui n'est pas le plus américain des patrons de boîtes informatiques, qui disait qu'il fallait être paranoïaque tout le temps. Alors moi, je ne souhaite pas qu'on vive dans un état de stress permanent. Et quand je parlais précédemment de paranoïa, il ne s'agit pas de diffuser ce sentiment à la population, mais simplement qu'elle progresse d'un cran sur sa capacité à pouvoir être bien consciente qu'un ordinateur qui reste allumé, c'est une très grande tentation pour qui chercherait à vous connaître un peu mieux.
L'angoisse d'un cyber Pearl Harbor dans les entreprises françaises. C'était un reportage d'Hélène Philippe.
On vient de prendre le contrôle de votre ordinateur égal.
Tous les samedis à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Yves Decaen.
Mais non, nous n'avons pas été piratés. Les États-Unis, voilà l'ennemi. Dit comme ça, ça peut paraître surprenant ou un peu brutal, mais en matière économique, c'est plus vrai que jamais. Là, on ne parle plus de cyberattaque, mais de droit. Et oui, c'est un comble. L'arme numéro un dont se servent les Américains pour tailler des croupières à nos entreprises, c'est l'arme du droit. C'est par toute une série de lois extraterritoriales, en s'appuyant sur l'hyperpuissance du dollar, qu'ils arrivent à déstabiliser les entreprises européennes jusqu'à parfois les ramasser comme des fruits mûrs. Et c'est ce que raconte dans un livre qui paraît aux éditions Actes Sud, Le droit, nouvelle arme de guerre économique. C'est ce que raconte Ali Laidi, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Ali Laidi.
Bonjour.
Alors 2 ans d'enquête extrêmement fouillée, hein, dont on sort vraiment remué, révolté par la toute-puissance économique américaine et surtout l'impuissance européenne. On va en parler dans les détails, mais globalement, c'est donc bien l'oncle Sam qui fait la loi sur le vieux continent.
Voilà. Avec 2 axes principaux. Premier axe principal, il fait la loi dans la lutte contre la corruption d'agents publics internationaux sur les grands marchés internationaux. Il l'a décidé en 1977 avec une loi qui d'abord portait uniquement sur ses propres entreprises et après, il a lobbyé ce pays pour atteindre l'ensemble du monde et il y est parvenu 20 ans après, en 1997, l'OCDE a adopté une convention contre la corruption. Et vous prenez les deux textes, le texte américain de 77, celui de l'OCDE de 97, c'est un copier-coller. Mmh. Donc premier axe, la lutte contre la corruption. Deuxième axe, la lutte contre les contournements des embargos décidés par les Américains sur un certain nombre de Rockstead, ces fameux pays voyous qui sont sur les listes noires des États-Unis, essentiellement l'Iran, la Libye, le Cuba, etc. Mmh. Des lois pour la plupart votées en 1996, Helms-Burton, Cuba, D'Amato, Kennedy, l'Iran et la Libye. Et donc on voit qu'ils interdisent non seulement à leurs propres entreprises de faire des affaires dans ces pays-là, mais ils interdisent à l'ensemble des entreprises du monde entier de faire des affaires avec ces pays-là. Donc voilà les 2 axes d'exportation de leurs droits dans le monde entier.
Alors 2 choses donc très très différentes. On peut penser que les lois qui visent à lutter contre la corruption sont moins contestables, finalement,
oui,
dans le principe.
Tout à fait, sont moins contestables. Sauf que là encore, un certain nombre de pays souhaitent laver leur linge sale en famille et demandent à ce que les États-Unis s'occupent de leurs affaires.
Oui, parce que sous couvert de faire le ménage, les États-Unis servent les intérêts de leurs entreprises.
Alors, non seulement ils servent les intérêts de leurs entreprises en déstabilisant des géants européens, mais ils en profitent au cours du processus qui appelle une enquête interne financée par les entreprises avec les avocats de ces entreprises, d'une enquête à charge contre l'entreprise qui peut durer entre 6 mois, 2 ans ou 3 ans. Et pendant ces 6 mois, 2 ans ou 3 ans, ils vont siphonner l'ensemble de l'information stratégique de cette entreprise et donc pouvoir nourrir les banques de données des différents services de renseignement américains.
Et oui, ça va loin, hein, parce que ce sont les entreprises elles-mêmes qui finalement enquêtent sur elles-mêmes au profit de la justice américaine.
Vous imaginez les cas de conscience des avocats de ces entreprises qui doivent travailler à charge contre leurs clients.
Alors, vous citez un certain nombre d'affaires connues, Alstom, fleuron de l'industrie française, passé en partie...
Ex,
passé en partie sous pavillon américain, Technique également. Vous parlez aussi de menaces sur Airbus, dont les pratiques sont actuellement scrutées par la justice américaine pour le plus grand profit de Boeing, bien sûr.
Alors, Airbus, c'est un cas assez particulier parce que les dirigeants d'Airbus ont décidé de s'auto-prononcer et s'auto-justifier auprès du Parquet National Financier et du SFO, le Serious Fraud Office anglais, en s'auto-dénonçant sur le fait qu'il n'aurait pas déclaré l'ensemble des intermédiaires sur un certain nombre de dossiers. Donc il y a des enquêtes en cours anglaises et françaises. Simplement, Le Monde nous a appris le 18 décembre dernier que les Américains étaient peut-être en train également de faire une enquête sur Airbus. Quand on voit les montants qu'ils ont donnés à Alstom, quand on voit les montants qu'ils ont condamnés BNP, etc., 9 milliards, il y a évidemment une crainte énorme, importante, vitale sur Airbus.
Et puis il y a l'exemple fameux de la BNP, hein, condamnée à payer 9 milliards d'amendes au Trésor américain pour avoir commercé en dollars avec l'Iran, Cuba ou le Soudan.
Oui, ce qui est autorisé par l'ensemble du monde.
C'est parfaitement légal.
Bah oui, c'est parfaitement légal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui interdit le commerce avec l'Iran, aucune condamnation auprès de l'OMC. Non, il y a simplement une loi votée par le Congrès américain qui interdit de faire du business avec ces pays-là. Et à partir de cette loi, comme vous l'avez dit, BNP a été condamné à 9 milliards de dollars d'amende.
Alors soyons clairs, hein, les investigations qui sont imposées aux entreprises auxquelles on demande de fournir tout document utile à l'enquête, ça ressemble fort à de l'espionnage institutionnalisé, disons-le.
Mais c'est très clair. Enfin, je donne des témoignages d'avocats qui reconnaissent qu'en dehors des cadres juridiques, avocats de ces entreprises sont allés fournir semaine après semaine des disquettes contenant des milliers, des millions d'informations à l'ambassade américaine qui était récupérée donc par des membres du FBI. Et évidemment, ces tonnes d'informations vont nourrir les bases de données américaines.
Et le comble, c'est que c'est même ubuesque, le droit américain s'applique à des entreprises étrangères sur des faits qui n'ont même pas eu lieu USA. Donc ça va loin.
C'est très clair. La plupart des faits n'ont pas eu lieu sur le territoire américain. Attention, distinguons la lutte contre la corruption, où dans la plupart des cas, les entreprises ont reconnu avoir corrompu, mais pas à partir du sol américain, et la question des sanctions qui s'appliquent sur les embargos, où là, encore une fois, elles ont absolument le droit de faire du business.
Alors, les deux explications principales à cette situation, c'est bien sûr l'hyperpuissance du dollar, et c'est aussi le risque d'exclusion du marché américain, ce qu'aucune multinationale ne peut se permettre.
Voire même une grande PME, une grande ETI, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir le marché américain comme débouché. L'explication, c'est le dollar, mais l'explication, elle est géopolitique également. C'est-à-dire que ces lois contre la corruption sur les sanctions datent de 77 et 96, comme je vous l'ai dit. Simplement, elles ont été agressivement activées à partir du 11 septembre 2001. L'analyse américaine est assez simple. Il faut lutter contre le terrorisme. Le terrorisme peut être financé. Dans ce cas, tout argent sale, soit par la corruption, soit par les sanctions, les contournements de sanctions contre des États comme l'Iran, tout argent sale peut potentiellement nourrir des actes terroristes. Donc il faut lutter contre l'argent sale. Et c'est à ce moment-là, à partir des années 2002, qu'ils activent agressivement leur loi extraterritoriale.
Ce qui explique d'ailleurs que les Européens, peu ou prou, laissent faire, puisque quelque part ils sont aussi victimes du terrorisme et finalement ça les arrange.
Alors, ils laissent faire... pas à cause du fait qu'ils sont victimes du terrorisme. Ils laissent faire tout simplement parce qu'ils n'ont aucun moyen de répliquer à ça. Il n'y a plus en Europe de cadre stratégique, de doctrine pour penser l'affrontement économique. Les Américains le pensent depuis 1993. Après la chute du mur, Warren Christopher, secrétaire d'État américain, va devant le Congrès américain et exige les mêmes moyens qu'ils ont eus dans la lutte pendant la guerre froide contre l'Union soviétique, ils veulent les mêmes moyens pour affronter la guerre économique. Donc pour eux, c'est très simple. Ce qui a remplacé la guerre froide, c'est la guerre économique. Ça date de 93. En Europe, on n'a pas pensé ces questions-là. Mmh. On est complètement en retard. On n'a pas de cadre stratégique. Et lorsque j'ai fait 4-5 voyages à Bruxelles pour essayer de comprendre quelle est la position de la Commission et de l'ensemble des hauts fonctionnaires de Bruxelles, ils sont totalement désemparés. Ils ne savent pas comment s'y prendre.
Alors, est-ce que la sortie de l'accord iranien décrété par Donald Trump peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Est-ce que les Européens ne sont pas en train de prendre conscience de leur soumission au dollar.
Mais oui, ils prennent conscience, c'est très clair. Ils le savent depuis 96 à travers les lois sur les sanctions. Ils ont essayé de répliquer. Ils ont commis la grave erreur. C'est qu'ils ont déposé plainte à l'OMC, qui était vraiment la bonne réponse. C'est ce qui a fait peur aux États-Unis, ce qui les a fait reculer. Mais ils sont pas allés au bout de cette plainte-là. Résultat, les Américains se sont sentis totalement libres d'agir. Donc aujourd'hui, ils savent, ils sont désemparés. Ils savent pas comment prendre la question. Et ils ont essayé, à travers ce fameux instrument qui s'appelle INSTEC, de contourner les sanctions américaines sur l'Iran. Alors, petit instrument, hein, qui est en fait un système de troc pour ne pas utiliser le dollar. Mais d'abord, c'est trop petit, ça ne concernerait que les PME, les PMI. D'autre part, ça ne concerne que l'agriculture et les médicaments, deux secteurs pour lesquels les États-Unis ont été condamnés par la Cour internationale de justice.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Européens?
La question, la réponse, c'est une réponse politique. On ne peut pas demander aux entreprises d'aller au front sans les couvrir politiquement. Donc c'est un rapport de force politique qu'il faut avoir vis-à-vis de Washington. Et donc c'est une disposition d'esprit que n'ont pas pour l'instant encore les Européens, parce qu'ils n'ont pas de grille de compréhension de la situation. Il leur faut retravailler leur stratégie, leur doctrine, leur cadre politique pour comprendre ce que sont ces affrontements économiques.
Ali Laïdi, chercheur à l'IRIS. Le livre s'appelle « Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes », livre paru aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, Ali Laïdi. Dans Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, cette question de Sophia. Sophia qui travaille dans une TPE de la Drôme. Son employeur ne veut toujours pas lui accorder de télétravail. Et pourtant, elle entend dire que le télétravail est de plus en plus répandu. Alors comment convaincre son entreprise?
Alors c'est vrai Sophia, le télétravail a longtemps été boudé par les managers français, mais il est en train de s'installer dans le paysage. Les accords signés sur le sujet entre les syndicats et la direction ont augmenté de 50% entre 2017 et 2018. C'est ce que nous dit une étude de Malakoff Médéric Humanis. Le télétravail informel, c'est-à-dire non contractualisé, se porte bien aussi. Au global, on peut dire qu'un tiers des salariés du privé ont la possibilité de travailler ailleurs qu'au boulot, à la maison pour l'essentiel, mais aussi dans des tiers-lieux, le nom branché des espaces de coworking ou du café du coin. Cet engouement soudain tient beaucoup aux ordonnances de 2017. Elles ont assoupli le recours au travail à distance, occasionnel ou pas. Dans un cas exceptionnel comme la grève, si votre employeur est d'accord pour que vous restiez à la maison, l'affaire est conclue. Le succès de la mesure tient aussi beaucoup dans le service après-vente assuré par la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Il y a un mois, alors que la tempête Gabriel menaçait l'Hexagone, la veille, la ministre invitait sur Twitter les entreprises et les salariés à opter pour le télétravail et elle rappelait les conditions. Un accord, une charte, un échange d'emails suffisent pour l'instaurer.
Oui, mais ça n'a pas toujours l'air de convaincre le patron de Sophia. Quels sont les arguments qu'elle peut mettre en avant?
Muriel Pénicaud répète que le télétravail est un droit opposable, mais attention, ça veut dire que l'employeur est tenu de motiver sa réponse en cas de refus, pas que le télétravail est un droit automatique. Votre employeur peut juger que votre présence est indispensable, tout dépend également de votre activité, c'est difficile pour un maçon ou une aide-soignante de télétravailler. L'étude précise aussi que les grandes entreprises sont plus enclines que les plus petites à accorder le travail à distance. La moitié des télétravailleurs sont des cadres, l'immense majorité sont en CDI, et un tiers vivent en Île-de-France où les transports sont chronophages. Mais voilà Sophia, vous pouvez expliquer que la grande majorité des managers et des salariés interrogés trouvent que le télétravail est source de plus grande efficacité au boulot. Vous pouvez aussi tenter l'argument économique. Dans un rapport remis il y a 15 jours au Premier ministre, trois experts expliquent que pour prévenir la hausse du coût des arrêts maladie et ce qu'ils appellent la désinsertion professionnelle, en gros l'absentéisme, le télétravail est une piste intéressante. Dites aussi qu'il peut sauver la planète, ça peut faire mouche.
Merci Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, merci à tous. Valentin Pérez, Coy Nguyen, Stéphane Boja pour cette émission qui se termine, il est 10h.